Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans les derniers épisodes du livre « Les quatre » d'Agatha Christie que nous avons lu, nous avons constaté que Hercule Poirot et Hastings accumulent de plus en plus d'informations sur les quatre. Et voilà qu'un jour, Poirot invite Hastings à commencer une journée avec ces mots. « Ce matin, il faut nous mettre en grande tenue. Nous allons chez le ministre de l'Intérieur. Et c'est moi, donc Hercule Poirot, qui ai sollicité l'entrevue. » Je vous invite donc à écouter cette entrevue. Je la lis pour vous au chapitre 15. Chapitre 15. La terrible catastrophe. Après la mort de Flossie Monroe, je constatais un changement chez Poirot. Jusqu'à cet événement, sa confiance illimitée en lui-même avait résisté à toutes les épreuves. Mais maintenant, son long effort commençait à lui coûter. Ses nerfs étaient à fleur de peau et son état fébrile se manifestait par des réflexes subis comme ceux d'un chat. Il évitait autant que possible toute allusion au grand quatuor et paraissait être pris par ses occupations courantes, alors qu'en secret, il travaillait activement à cette ténébreuse affaire. Je remarquai qu'il avait fréquenté la visite de Slav, et bien qu'il ne daignât pas me fournir la moindre explication, je compris qu'il édifiait un nouveau système de défense. Ces étrangers à l'allure singulière devaient lui servir d'instrument. Un jour, mon ami m'ayant demandé d'examiner son livre de compte pour vérifier certaines dépenses, je constatai qu'il avait payé une somme importante à un certain russe, dont le nom semblait contenir toutes les lettres de l'alphabet. Toutefois, Poirot continua à me cacher son nouveau système. Il se contentait de répéter souvent que la plus grande erreur était de mésestimer son adversaire. Et je conclus qu'il était fermement décidé à ne pas la commettre. Les choses continuèrent ainsi jusqu'à la fin de mars. Un beau matin, Poirot déclara : « Ce matin, il faut nous mettre en grande tenue. Nous allons chez le ministre de l'Intérieur. » « Vraiment ? « Ce que vous me dites est très intéressant. Vous a-t-il chargé de l'affaire ?»« Pas précisément. C'est moi qui ai sollicité l'entrevue. Vous vous souvenez bien qu'à un certain moment, comme je vous l'ai déjà raconté, je lui ai rendu un petit service. Il est resté un de mes grands admirateurs et je compte mettre à profit ses bonnes dispositions à mon égard. Comme vous le savez, le président du Conseil français, M. Desjardeaux, est actuellement à Londres, et sur ma demande, le ministre de l'Intérieur l'a prié d'assister à notre entretien. Sidney Crowther, ministre de l'Intérieur, était une personnalité très connue. Cet homme âgé, à l'expression plaisante, aux yeux gris pleins de malice, nous reçut avec cette bonhomie que tout le monde se plaisait à lui reconnaître. Le président du Conseil français, mince, au visage expressif, agrémenté d'une barbe taillée en pointe, était debout adossé à la cheminée. « Monsieur Desjardeaux, dit Crowther, permettez-moi de vous présenter Monsieur Hercule Poirot, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. » Le président serra la main au grand détective. « En effet, je connais ce nom, Monsieur Hercule Poirot, dit-il, qui n'en a pas entendu parler. » Poirot, rougissant de satisfaction, salua le président. « On ne dit rien aux vieux amis ? » demanda une voix discrète. « C'était notre vieille connaissance, M. Inglès, à qui Poirot fut heureux de serrer la main. « Nous vous écoutons, M. Poirot, » dit Crowther. « J'ai cru comprendre que vous aviez à nous communiquer une nouvelle de la plus haute importance. » « C'est exact, monsieur le ministre. Il existe dans le monde une vaste organisation criminelle dont la direction est assurée par quatre individus. Cette bande est connue sous le nom de grand quatuor ou simplement les quatre. Le numéro 1, c'est un Chinois nommé Li Shangyan. Le numéro 2 est le multimillionnaire américain Abbey Highland. Le numéro 3, une Française. Quant au numéro 4, j'ai tout lieu de croire que c'est un obscur acteur anglais du nom de Claude Darrell. Ces quatre individus ont parti liés pour instaurer dans le monde entier une dictature quadruple. Et ils en sont capables, croyez-moi. « C'est incroyable !» murmura le Premier ministre. « Comment Highland serait-il mêlé à une affaire de ce genre ? Fantastique !»« Permettez-moi de vous conter quelques-uns des hauts faits du grand quatuor. » Poirot se leva et commença son récit. Il fut bref, mais poignant. Je connaissais bien entendu tous les détails, mais je n'en fus pas moins ému d'entendre exposer nos nombreuses aventures et toutes les péripéties de notre lutte contre les grands quatre. Lorsque Poirot eut terminé, M. Desjardeaux regarda Krauser sans mot dire. Ce dernier comprit le regard interrogateur qui venait de lui être adressé. « Oui, Monsieur Desjardeaux, je crois qu'il nous faut admettre l'existence du grand quatuor. » Au début, Scotland Yard fut tenté d'en rire, mais il lui fallut bien reconnaître que M. Poirot avait raison sur plus d'un point. Le tout est de savoir dans quelle mesure ces hypothèses sont fondées. J'ai peine à croire que M. Poirot n'exagère pas un peu. Pour toute réponse, mon ami exposa 10 faits principaux. J'ai été prié de ne pas les dévoiler au public, même à l'heure actuelle. Cependant, je suis autorisé à dire qu'il fit état des catastrophes sous-marines qui se produisirent en Amérique, des accidents d'aviation sensationnels, des préparatifs de guerre, de la programmation de la violence menée par certains partis extrémistes. Selon Poirot, tout cela, c'était l'œuvre des quatre qui disposaient de moyens scientifiques complètement ignorés du reste du monde. Enfin, le président du Conseil français posa la question à laquelle nous nous attendions. « Vous dites que le troisième membre de cette organisation est une Française. Connaissez-vous son nom ?»« C'est un nom célèbre, monsieur le président. Le numéro 3 n'est autre que la fameuse Madame Olivier. » Monsieur Desjardeaux bondit. « Madame Olivier, mais c'est impossible ! Absurde, inouï, c'est une insulte que vous proférez là !» Poirot hocha tranquillement la tête et ne dit rien. Monsieur Desjardeaux l'observa stupéfait pendant quelques instants, puis regardant le ministre de l'Intérieur. « Monsieur Poirot est très connu, certes, mais les grands hommes ont quelquefois des petites manies. La sienne ne serait-elle pas d'imaginer des complots et de leur attribuer comme auteur des personnages en vue ? Ne croyez-vous pas, monsieur Krauser ? » Celui-ci réfléchit un instant, puis répondit lentement en pesant chaque mot. « À vrai dire, je ne sais pas. J'ai toujours eu et j'ai encore la plus grande confiance en M. Poirot, mais je reconnais que le cas présent paraît invraisemblable. Quelqu'un a-t-il entendu parler de ce Li Shangyan ? » poursuivit M. Desjardeaux. « Moi ! » repartit M. Inglès qui s'était tu jusqu'alors. Le Français le regarda fixement. « Monsieur Inglès, dit le ministre anglais, est la plus grande autorité que nous ayons au sujet de la Chine. Et vous en avez entendu parler de ce Li Shangyan ? Jusqu'au jour où Monsieur Poirot, ici présent, vint m'en parler, je m'imaginais être seul en Angleterre à le connaître. Ne vous y trompez pas, Monsieur Desjardeaux. Un seul homme compte aujourd'hui en Chine, et cet homme est... Li Shangyan, peut-être est-il l'homme le plus intelligent au monde. Monsieur Desjardeaux, abasourdi, réfléchit pendant quelques instants, puis sur un ton plus calme. Il est fort possible que vos affirmations soient en grande partie fondées, monsieur Poirot. Mais en ce qui concerne madame Olivier, il est certain que vous faites erreur. C'est une grande savante qui a consacré sa vie à l'étude. Poirot haussa légèrement les épaules comme découragé et se tut. Après une ou deux minutes de silence, il se leva et d'un air digne qui le rendait irrésistiblement cocasse. « C'est tout ce dont je désirais vous entretenir, messieurs. Je m'attendais à ne pas être cru. Je ne suis donc pas surpris, mais j'ai tenu quand même à vous mettre en garde. De ce que je vous ai dit, il restera quelque chose. Et s'il se produit un nouvel événement, souvenez-vous-en. Il était indispensable que je vous fisse cet exposé maintenant, car peut-être ne serais-je plus à même de le faire plus tard. Que voulez-vous dire ? Demanda M. Crowther, impressionné par la gravité de Poirot. Je veux dire que depuis que j'ai établi l'identité du numéro 4, ma vie ne vaut pas cher. Il s'efforcera de me faire disparaître coûte que coûte. Il a d'ailleurs bien mérité son nom de destructeur. Permettez-moi, M. Crowther, de vous remettre cette clé et l'enveloppe que voici. J'ai réuni toutes mes notes sur cette affaire et j'ai indiqué les moyens que j'estime les plus appropriés à combattre le danger. Des dictatures foudroient de malheureux pays et menacent la civilisation. Prenez garde à la menace d'une dictature mondiale. Au cas où je mourrais, je vous autorise à utiliser ces papiers. Et maintenant, messieurs, permettez-moi de me retirer. Desjardins salua sèchement. Crowther, lui, se leva et tendit la main à son vieil ami. « Vous m'avez convaincu, monsieur Poirot. Quelque invraisemblable que paraisse cette affaire, j'ai confiance en vous. » Inglès se retira avec nous. « Je ne suis pas déçu, dit Poirot. Je ne pensais pas convaincre monsieur Desjardins. Cette visite me donne au moins l'assurance que tout mon travail ne sera pas perdu. » Au cas où je viendrais à disparaître, et j'ai réussi à faire un converti, sinon deux, c'est un résultat. Je suis de tout cœur avec vous, monsieur Poirot. Vous ne l'ignorez pas, je pense, déclara Inglès. Savez-vous que je vais retourner en Chine? Croyez-vous que ce soit sage? Non, dit franchement Inglès, mais il le faut. Chacun doit faire ce qu'il peut. Ah! « Vous êtes un homme courageux !» s'écria Poirot avec émotion. « Si nous n'étions pas dans la rue, je vous embrasserais !» Inglès parut réconforté de se trouver dans la rue. « Je ne pense pas, dit-il, que je courrais en Chine plus de danger que vous à Londres !»« C'est possible, admit mon ami. Mon seul désir est qu'il n'assassine pas aussi Hastings. » J'interrompis cette réjouissante conversation en faisant remarquer à Poirot qu'il n'était pas du tout dans mes intentions de me laisser assassiner.
La brève de Je lis pour vous.
Après avoir pris congé de M. Inglès, nous parcourûmes un bon bout de chemin en silence. Tout à coup, Poirot me fit une remarque des plus inattendues. « Je songe réellement à mêler mon frère à cette histoire. « Comment ? Votre frère ? » m'écriai-je étonné. « J'ignorais que vous eussiez un frère. « Vous me surprenez, Hastings. Ignorez-vous que tous les détectives célèbres ont des frères qui pourraient être bien plus célèbres encore, n'était leur paresse innée. À certains moments, on ne sait plus si Poirot plaisante ou s'il faut le prendre au sérieux. « Quel est le prénom de votre frère ? » demandai-je en m'efforçant de m'habituer à cette nouvelle idée. « Achille. Achille Poirot, » précisa-t-il gravement. « Il habite près de Spa, en Belgique. »« Que fait-il ? » continuai-je poussé par la curiosité et sans faire allusion au goût suranné de feu Madame Poirot qui avait doté ses fils de noms aussi héroïques. Il ne fait rien, comme je vous l'ai dit. C'est là son malheur. Une indolence détestable le père, mais au fond, il est aussi doué que moi. C'est tout dire. Vous ressemble-t-il physiquement ? Oui, mais pas aussi beau garçon. Il n'a pas de moustache. Lequel de vous deux est l'aîné ? Nous sommes venus au monde ensemble. Mais C'est donc un jumeau ? M'écriai-je. C'est exact, Hastings. Vous arrivez toujours à la conclusion voulue. Eh bien, maintenant que nous sommes arrivés, occupons-nous un peu de cette petite histoire du collier de la duchesse. Mais le collier de la duchesse devait attendre encore quelque temps, car une toute autre affaire nous sollicitait. En effet, à peine arrivée, Mrs. Pearson nous avisa qu'une infirmière attendait Poirot. Une jeune femme bien moulée dans son uniforme bleu foncé était assise dans le grand fauteuil face à la fenêtre. Elle semblait hésiter, mais Poirot la mit à son aise avec son tact accoutumé. « Je viens vous demander conseil, monsieur Poirot. Il s'est produit une chose extraordinaire. J'ai été envoyée par la congrégation des Sœurs de l'Arc chez un malade à Hertfordshire. Il s'agissait d'un monsieur âgé, monsieur Templeton. La maison et ses occupants sont très sympathiques. Mrs. Templeton est beaucoup plus jeune que son mari et ce dernier a de son premier mariage un fils qui habite chez lui. Je ne suis pas certaine que ce jeune homme et sa belle-fille s'accordent. Je viens vous demander conseil, monsieur Poirot. Il s'est produit une chose extraordinaire. J'ai été envoyée par la congrégation des Sœurs de l'Arc chez un malade à Hertfordshire. Il s'agissait d'un monsieur âgé, monsieur Templeton. La maison et ses occupants sont très sympathiques. Mrs. Templeton est beaucoup plus jeune que son mari, et ce dernier a de son premier mariage un fils qui habite chez lui. Je ne suis pas certaine que ce jeune homme et sa belle-mère s'accordent toujours très bien. Ce pauvre garçon n'a pas toute sa raison. Dès le début, la maladie de monsieur Templeton m'a paru très mystérieuse. Par moments, il donne l'impression d'être en très bonne santé, puis, brusquement, il est pris de maux d'estomac, accompagné de vomissements, de douleurs violentes. Cependant, le docteur semble trouver tout cela normal, et il ne m'appartenait pas d'émettre un avis, lorsqu'un jour, elle s'arrêta et rougit. « Il s'est produit quelque chose qui a éveillé vos soupçons, acheva Poirot. « Oui, c'est bien cela. » Elle se tut, hésitante et perplexe. Enfin, elle reprit son récit. Je me suis aperçue que les domestiques faisaient également des remarques. Au sujet de la maladie de M. Templeton ? Oh non, au sujet d'autre chose. Mrs. Templeton ? Oui. Mrs. Templeton et le docteur, peut-être ? Poirot avait un flair extraordinaire pour ce genre de choses. L'infirmière lui lança un regard reconnaissant et continua. « Oui, les domestiques faisaient des remarques, et un jour, je vis moi-même Mrs. Templeton et le docteur ensemble dans le jardin. » Les explications en restèrent là. Notre visiteuse était à tel point indignée qu'on ne pouvait décemment lui demander ce qu'elle avait vu dans le jardin. Elle en avait certainement vu assez pour se faire une opinion sur la situation. Recouvrant son sang-froid, la pauvre infirmière put enfin nous communiquer d'autres renseignements. Les crises sont allées en empirant. Le docteur Trevès assure que telle est l'évolution habituelle de la maladie et que Templeton ne vivra certainement plus très longtemps. Jamais au cours de toute ma carrière d'infirmière, je n'ai vu chose pareille. Ces crises doivent à croire, mais qu'il s'agit... Elle hésita de nouveau. D'un empoisonnement par l'arsenic ? Demanda Poirot. La garde-malade fit un signe affirmatif de la tête et continua. Un jour, mon malade a fait une réflexion que je n'ai pas comprise. Il a dit « Ils mourront à eux quatre et ils y arriveront. Comment ?» demanda Poirot. « Ce sont ses propres paroles, monsieur Poirot. Je dois dire qu'il souffrait terriblement et peut-être ne se rendait-il pas très bien compte de ce qu'il disait. À votre avis, que voulait-il dire par « eux » quatre ? Demanda Poirot. « Je ne sais pas vraiment. J'ai cru qu'il pensait à sa femme, à son fils, au docteur et peut-être à Miss Clark, la dame de compagnie de Mrs. Templeton. Peut-être les croit-il tous les quatre ligués contre lui ? Oui, oui, c'est possible, dit Poirot d'un air soucieux. Pouvez-vous surveiller ses aliments ? Je fais ce que je peux, mais souvent, Mrs. Templeton insiste pour lui apporter elle-même ses repas. De plus, il y a des heures pendant lesquelles je ne suis pas de garde. Naturellement, n'êtes-vous pas assez sûr de tout cela pour en aviser la police ? Au seul mot de police, le visage de l'infirmière exprima une grande frayeur. Voici ce que j'ai fait, monsieur Poirot. Monsieur Templeton a eu une forte attaque après avoir pris une tasse de potage. J'ai pris ce qui restait dans le fond du bol et je vous l'ai apporté. J'ai été autorisée à m'absenter aujourd'hui dès que monsieur Templeton s'est endormi. Elle sortit de son sac un petit flacon qu'elle confia à Poirot. C'est très bien, mademoiselle, nous allons faire analyser cela immédiatement. S'il vous est possible de passer ici dans une heure environ, nous serons à même de vous communiquer les résultats. Après avoir appris le nom et les antécédents de la jeune femme, Poirot la reconduisit dans le vestibule, puis il fit apporter le flacon qui lui avait été confié au laboratoire d'un de ses amis. En attendant les résultats de l'analyse, Poirot vérifia les titres de l'infirmière, ce qui ne manqua pas de me surprendre. « C'est très naturel, mon cher. J'ai tout lieu d'être circonspect. N'oubliez pas que les quatre ont l'œil. » Une infirmière du nom de Mabel Palmer, membre de l'Institut de l'Arc, avait effectivement été envoyée auprès du malade en question. « Jusqu'à présent, tout va bien, dit-il avec un clignement d'œil. Tenez, voici notre garde qui revient et on nous apporte en même temps l'analyse. » Miss Palmer et moi attendions impatiemment que Poirot nous fît connaître le résultat. « A-t-on trouvé des traces d'arsenic ?» demanda l'infirmière. Poirot secoua négativement la tête en repliant le papier. « Non !» Nous en fûmes tous deux extrêmement surpris. « Il n'y a pas d'arsenic, insista Poirot, mais il y a de l'antimoine. » Nous allons donc partir immédiatement pour Hertfordshire. Souhaitons d'arriver à temps. On dressa le plan de bataille. Poirot se présentait franchement comme détective dans le but d'interroger Mrs. Templeton sur le compte d'une ancienne domestique soi-disant mêlée à un vol de bijoux. Ayant eu soin de laisser la garde arriver 20 minutes avant nous de façon à ne pas éveiller de soupçons, nous arrivâmes assez tard à Eltsbed, la propriété de M. Templeton. Mrs. Templeton nous reçut poliment, mais son regard et ses gestes dénotaient une certaine nervosité. Quand Poirot nomma sa profession, elle sursauta. Cependant, elle répondit de bonne grâce aux questions concernant son ancienne domestique. Pour étudier les réactions du sujet, Poirot entreprit le récit d'un empoisonnement. Une femme avait été reconnue coupable. Mon ami ne quittait pas des yeux Mrs. Templeton qui maîtrisait difficilement son agitation. Au milieu du récit, elle se retira brusquement en bredouillant un mot d'excuse. Nous ne restâmes pas longtemps seuls. Un homme solidement bâti avec une petite moustache rousse et un lorgnon fit son apparition. « Docteur Treves !» se présenta-t-il. « Mrs. Templeton me prie de l'excuser auprès de vous. Elle n'est pas en bonne santé. Ses nerfs sont à bout depuis la maladie de son mari. Je lui ai prescrit le lit et du bromure. »« Mrs. Templeton espère que vous voulez bien dîner à la fortune du pot. » Elle me confie le rôle de maître de maison. « Nous avons beaucoup entendu parler de vous, Monsieur Poirot, et nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. Tenez, voici Mickey. » Un jeune homme fit son entrée d'un pas traînant. Il avait une figure ronde et des sourcils relevés qui lui donnaient un air étonné. Il fit une grimace qui voulait être un sourire et nous serra la main. pas d'erreur possible, c'était le fils du patient. On nous conduisit dans la salle à manger. Tout à ses devoirs d'hôte, le docteur Treves nous quitta pour un instant. Subitement, la physionomie du jeune homme changea. Se penchant en avant et fixant Poirot, il chuchota. « Êtes-vous venu au sujet de mon père ? Je connais des foules de choses, mais personne n'est au courant. Maman sera bien contente lorsque mon père sera mort. Cela lui permettra d'épouser le docteur Treves. Elle n'est pas ma vraie mère et je ne l'aime pas. » Ce récit avait quelque chose d'atroce, mais le docteur Treves rentra et nous nous mîmes en devoir de soutenir une conversation de façade. Brusquement, Poirot se rejeta en arrière avec un gémissement. Son visage était empreint de douleur. « Mon cher monsieur, êtes-vous souffrant ?» demanda le docteur effrayé. « Une attaque brutale comme il m'en arrive de temps à autre. Ne vous inquiétez pas, docteur. Je n'ai besoin de rien, sinon de m'allonger. Permettez-vous que je monte m'étendre dans une chambre ?» Bien entendu, le docteur acquiesça, et j'accompagnai Poirot à l'étage supérieur, où il s'effondra sur le lit avec force gémissement. Pour commencer, je fus moi-même prise au piège. Mais bientôt, je compris que Poirot jouait la comédie et qu'il souhaitait uniquement se trouver à proximité de la chambre de Mr. Templeton. Dès que nous fûmes seuls, il sauta à bas du lit. « Vite, Hastings, sauvons-nous ! Il y a du lierre à l'extérieur. Nous pouvons facilement nous enfuir sans être vus. Nous enfuir ? Oui, il faut immédiatement quitter cette maison. L'avez-vous vu pendant le dîner ? Qui ? Le docteur ? Non, le jeune Templeton. Vous n'avez pas remarqué comment il jouait avec son pain ? Vous souvenez-vous de ce que nous a dit Flossie Monroe avant de mourir ? L'habitude qu'avait Claude Darrel de ramasser avec un morceau de mie de pain les miettes éparses sur la table. Hastings, nous sommes en présence d'un vaste complot et ce jeune homme, au visage naïf, n'est autre que notre principal ennemi, le numéro 4. Dépêchons-nous de partir. Je ne discutais pas. Aussi incroyable que tout cela me parut, je jugeais plus sage de ne pas traîner. Nous nous laissâmes glisser le long du mur et nous retenant au lierre et d'un pas de course, nous gagnâmes la gare juste à temps pour prendre le dernier train de 8h34 qui devait nous déposer à Londres vers 11h. « C'était un complot, » dit Poirot. « À combien s'était-il mis pour le préparer, je me le demande. Tous les membres de la famille Templeton doivent être des agents des quatre. » Avaient-ils simplement l'intention de nous attirer dans un guet-apens, ou bien leur plan était-il plus subtil ? Peut-être pensaient-ils me retenir là-bas pendant le temps nécessaire pour exécuter. Dieu sait quel crime ! Mon ami ! N'y croyant pas, il demeura rêver un bon moment. Attention, Hastings, me dit-il, je me méfie. Laissez-moi entrer le premier.
La brève de « Je lis pour vous ».
C'est ce qu'il fit, et à mon grand amusement, je le vis appuyer sur le commutateur à l'aide d'une vieille galoche qui se trouvait là, abandonnée par la domestique de Mrs. Pearson. Il tourna dans la pièce comme un chat en terre inconnue, prêt à toute éventualité. « Rien d'anormal ? » demandai-je en commençant de perdre patience. « Non, mais soyons prudents. » « C'est ridicule, lui dis-je. Laissez-moi allumer le feu et fumons une bonne pipe. Dites donc, je crois que c'est mon tour de vous sermonner. Vous vous êtes servi des allumettes le dernier et vous ne les avez pas remises en place. » Au moment où je touchais à la boîte, Poirot se précipita vers moi avec un cri d'avertissement. « Trop tard !» Au même instant, un vacarme assourdissant éclata, une grande flamme bleue éclaira la pièce, puis... ce fut l'obscurité complète. Quand je rouvris les yeux, je vis penché sur moi le visage familier de notre vieil ami, le docteur Ridgeway. « Ne bougez pas, me dit-il doucement. Vous allez mieux ? » Quelle catastrophe ! Et Poirot, demandai-je, vous êtes chez moi, tout va bien, ne parlez pas. Une peur épouvantable m'étreignit. Sa réponse trop vague éveilla en moi une appréhension horrible. « Poirot ! Répétai-je, qu'est-il devenu ?» Ridgway comprit que je tenais absolument à savoir et qu'il était inutile d'user de faux fuyants. « Vous avez échappé par miracle. Poirot a eu moins de chance. Il n'est pas mort ?» Le docteur baissa la tête, ses lèvres tremblaient. Rassemblant toute mon énergie, je m'écriai « Si Poirot est mort, son esprit lui survivra. Je poursuivrai sa tâche. Mort aux quatre !» Et je sombrai de nouveau dans l'inconscience. Chapitre 16. L'agonie du Chinois. Même à l'heure actuelle, il m'est pénible de relater ces journées de mars. Poirot, l'unique, l'incomparable Hercule Poirot était mort. Quel diabolique complot avait provoqué l'explosion. Le reproche que je m'étais permis d'adresser à mon ami en plaisantant fut pour moi une cause d'atroce remords. Comme l'avait dit le docteur Ridgway, je ne m'en étais tiré que par hasard avec une forte commotion. J'aurais pu être tué également. Le lendemain soir, je pus me lever d'un pas chancelant. Je gagnai la pièce voisine pour me recueillir devant le modeste cercueil qui contenait les restes d'un des hommes les plus extraordinaires de tous les temps. Ma seule idée fut de venger Poirot et de m'élancer à la poursuite des quatre pour leur faire payer chèrement ce meurtre. Je m'étais imaginé que Ridgway me soutiendrait, mais à mon grand étonnement, le docteur était singulièrement tiède. « Retourner en Argentine, me répétait-il. Pourquoi tenter l'impossible ?» Je devinais sa pensée. Du moment que Poirot, l'unique Poirot, avait échoué, avais-je vraiment des chances de réussir? Mais j'étais tenace et je ne me demandais même pas si j'avais les qualités requises pour mener à bien la tâche. J'avais travaillé avec mon ami dès le début de cette affaire et j'étais le seul à connaître ses méthodes. En un mot, je me sentais apte à continuer la besogne. Mon plus cher ami avait été odieusement assassiné. Et je ne pouvais retourner chez moi comme un lâche sans même essayer de mettre la main sur ses meurtriers. C'est ce que je dis à Ridgway, qui me supplia de renoncer à mes projets. « Vous n'y pouvez rien, déclara-t-il, et je suis absolument convaincu que Poirot lui-même, s'il était là, vous engagerait à repartir. Je vous en supplie en son nom, Hastings, abandonnez ces projets insensés et regagnez votre rancho. Songez à votre pauvre femme, elle vous attend. » Devant mon entêtement, le pauvre Ridgway haussa tristement les épaules. Il ne me fallut pas moins d'un mois pour me rétablir. Et vers la fin d'avril, je sollicitai et j'obtins une entrevue du ministre de l'Intérieur. L'attitude de M. Crowther fut exactement celle de Ridgway, c'est-à-dire qu'il me conseilla vivement de repartir pour l'Amérique du Sud, avec beaucoup d'amabilité et en y mettant les formes. Il déclina le concours que je lui offrais. Il m'assura que toutes les précautions étaient prises conformément aux instructions que lui avait laissées Poirot. Nous nous quittâmes sur cette froide consolation qui était loin de me satisfaire. Je m'excuse de n'avoir pas décrit en leur temps les obsèques de Poirot. Elles furent solennelles et émouvantes. Il y avait un nombre incroyable de gerbes et de couronnes, venant des gens les plus simples et des personnalités les plus en vue. Londres tout entier rendait hommage à la situation que mon ami s'était créée dans son pays d'adoption. Une émotion indicible m'étreignit lorsque, au bord de la tombe, je me souvins de nos aventures, de nos causeries et des beaux jours vécus ensemble. Au début de mai, mon plan de campagne était arrêté. Je décidai de me conformer au plan de Poirot et d'insérer des annonces dans les journaux pour obtenir des renseignements sur le compte de Claude Darel. Un matin, installé dans un petit restaurant de Soho, je relisais mes propres annonces. Mais lorsque je tournais la feuille pour jeter un coup d'œil sur les nouvelles du jour, je poussai une exclamation. En peu de mots, le journal relatait la disparition mystérieuse de M. Inglès à bord du Shanghai peu après son départ de Marseille. On craignait que le pauvre homme ne fût tombé à la mer. La nouvelle se terminait par une courte allusion au service rendu en Chine par le disparu. Je ne crus pas un seul instant à un accident. Les assassins de Poirot étaient ceux de John Inglès. Encore sous le choc de cette sinistre nouvelle, je levai distraitement la tête lorsqu'un étranger m'apostropha. C'était un homme mince, brun, de taille moyenne, au teint blême. Il avait une petite barbe taillée en pointe. Il s'était installé si discrètement à ma table que je n'avais même pas remarqué son arrivée. Après cette histoire étonnante chez la famille Templeton et la découverte de la présence de Claude Darel, le numéro 4 incognito, dans cette maison, Poirot et Hastings partent, en se sentant comme au milieu d'un endroit dangereux. Leur retour à la maison n'est pas plus gai. Une explosion et Poirot ? Mort de mort violente. Un peu plus loin, la disparition de M. Inglès. N'oubliez pas, vous pouvez écouter la suite en direct sur la radio. Radio Alliance Plus, 103.2 FM et DAB+. Vous pouvez aussi, sur notre site, réécouter l'ensemble du livre dans le podcast du site. À bientôt, chers auditeurs.